Vous êtes sur RTL.
30. RTL.
Vous êtes des vedettes de la télé?
Va-t'en.
Je veux pas vous importuner, monsieur, dame, mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Élie Barclay?
Marianne Chazelle est l'invitée du journal inattendu sur RTL.
Ben quoi, chuchote, hein? Je chante pas plus mal que Steph de Monaco.
Mademoiselle, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Oh,
12h30, 13h30.
Ah non, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme sans artifice et qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela.
Marianne Chazelle, Anaïs Bouton.
Qu'est-ce que c'est que ça, Zizette épouse X?
Zizette épouse X.
Le journal inattendu.
Les Daft Punk, mais pourquoi les Daft Punk en plein ZZ épousique? Eh ben parce qu'on vous reçoit, Marianne Chazelle, parce que vous aimez le théâtre, les Daft Punk, la Corse, ZZ. Tout ça, c'est votre univers. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça va bien?
Très bien, très bien.
Merci de venir pour une heure la rédactrice en chef du journal inattendu. On en profite, toute l'équipe avec moi, pour avoir une pensée affectueuse pour Ophélie Meunier, qui est en congé maternité, qu'on embrasse très fort et que vous retrouverez en janvier. Et nous, Marianne, on est ensemble en direct pour parler d'actualité, pour parler du monde selon vous. Vous êtes une comédienne aux millions d'entrées, vous faites partie de la famille. Mais vous êtes aussi délicate, discrète. On vous connaît pour vos rôles au cinéma, mais c'est sur les planches du théâtre des variétés qu'on vous retrouve à partir du 17 septembre avec Régis Laspalès pour une pièce qui s'appelle « La famille et le potager » de Bob Marté. Régis Laspalès qui vous a fait une petite surprise, vous allez voir. Mais pour l'instant, une petite question quand même. On vient de vivre deux années un peu particulières. Dans quel état vous êtes avant de remonter sur scène?
Ah, on est dans un état de manque, de désir.
Ah, c'est vrai, ouais.
Envie de retrouver le public, envie de jouer, envie de... On est très heureux de répéter, on se donne à fond. On espère que la pièce va nous faire rire autant que nous, on s'amuse à la monter. Vraiment, il faut que cette rentrée se fasse. C'est trop important pour toute la profession, pour le moral des gens, pour tout.
Et c'est un message que vous adressez un peu aux autorités politiques,
culturelles, mais je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Je pense qu'il y a des moyens de se protéger. On se fait vacciner, on est courageux et puis on va y arriver. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça et à se priver de tout. Ce n'est pas possible. Hein. La frustration à ce point-là, c'est les gens tournent fous. Donc j'espère qu'ils viendront et qu'ils seront là. Nous, en tout cas, on se régale à l'idée qu'ils soient là.
Et nous, on sera là, RTL aussi, on sera là. Allez, on a une heure ensemble. Mais vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est celle de l'autoportrait. Vous
oui, avez ça n'est pas la plus facile.
Une minute pour vous présenter, Marianne Chazelle. Alors, qui êtes-vous?
Alors, d'abord, je m'appelle Marianne Chazelle, j'ai 8 ans, je suis comédienne, scénariste, réalisatrice. J'ai vu le jour dans les Hautes-Alpes, j'ai passé mon enfance à Nice, où est né mon amour pour la mer Méditerranée et le mimosa. C'est à Neuilly-sur-Seine, dans l'ingratitude de mon adolescence, que mon horizon s'est ouvert, en rencontrant 4 garçons dans le vent, Christian, Thierry, Gérard et Michel. Splendide hasard, moi, fille de pasteur, c'est en face du lycée Pasteur que ses camarades allaient devenir mes amis pour la vie. C'est là que tout a commencé, dans la cour du lycée. L'amour du théâtre et de la comédie, la découverte du cinéma, la passion du jeu, l'apprentissage de l'écriture, une envie folle de liberté, de rire, de construire, d'imaginer et une envie commune d'être ensemble, tout simplement. De cette énergie juvénile naîtront des cafés-théâtres, des pièces, des films et des personnages tels que Gigi, ZZ, Dame Ginette, etc. qui, semble-t-il, quelques générations plus tard, font toujours rire les Français et sont entrés dans une mémoire collective affectueuse. Le théâtre, c'est là où tout s'est concrétisé, sous la houlette géniale d'une professeure, Cilla Shelton, qui m'a aidée à sortir d'une timidité maladive. C'est là où tout recommence à chaque fois. Quand je dis le théâtre, je parle de la troupe et de la salle remplie d'histoires et de souvenirs. Je m'y sens à ma place, comme protégée, comme si à chaque aventure, à chaque aventure, la prise de risque est entière. Sans doute cela vient de ma mère, comédienne sur le tard, et qui participa à la création du formidable Théâtre du Soleil d'Ariane Nouchkine. Mon métier et mon plaisir consistent à raconter des histoires, à faire vivre des personnages, que ce soit en jouant, en écrivant ou plus rarement en réalisant. Transformer la réalité en rêve, en rire, Car la vie, d'expérience, n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, j'avoue, je préfère la fiction au réel, le rêve à la réalité. Je pense que c'est ce qui a déterminé mes choix et qui continue à m'alimenter aujourd'hui, bon, sous une forme peut-être plus apaisée, plus engagée dans des actions personnelles. J'ai l'esprit curieux, la vie des gens m'intéresse, mes goûts sont éclectiques, assez classiques. La musique, du même nom, la littérature et les chats, ça va souvent ensemble, la danse, beaucoup la nature, sous toutes ses formes. N'oubliez pas que j'ai été scout. Passionnée d'histoire, malgré une licence chaotique à Nanterre, j'aime jouer les personnages en costume, m'imaginer vivant à d'autres époques, le haut Moyen-Âge par exemple. Il faut que je pense, dans une autre vie, à faire une thèse sur le corset. J'en ai beaucoup porté. Il y a tant de choses que j'aimerais faire et que je n'ai pas encore faites. Peut-être par procrastination. Monter à cru un cheval sauvage, jouer Bach, parler cinq langues, chanter la Traviata, faire le tour du monde en solitaire. Je porte une admiration sans borne à ceux qui en sont capables. Mon enthousiasme peut parfois fatiguer mes proches, mais tant pis, j'espère garder ma faculté d'émerveillement jusqu'à mon dernier souffle.
Mais c'est très beau ce que vous avez écrit.
Ça vous va ?
Mais oui, mais vous êtes trop mignonne. Et c'est drôle parce que vous parlez de votre timidité et votre feuille tremblait pendant que vous la lisiez.
C'est vrai, et ben voyez, mais j'aime pas du tout parler de moi. Donc vous savez, c'est un exercice très difficile que vous nous faites faire.
Mais vous l'avez très bien fait.
Bon, tant mieux.
Et on va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'émission. On va parler de la famille et du potager de Bob Martet, qui est la pièce que vous, vous allez créer avec,
avec Régis, Régis Laspalès et d'autres acteurs d'ailleurs. On est plusieurs. Et mis en scène par Anne Bourgeois. Voilà. Avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai déjà joué deux pièces.
Avec Patrick Chenet.
Voilà, avec Patrick Chenet et avec Michel Sardou.
Allez, tout de suite, c'est l'actualité de ce samedi. Ne pas baisser la garde face à l'État islamique, c'est le message de fermeté d'Emmanuel Macron depuis Bagdad, où il assiste à un sommet alors que la situation en Afghanistan est dans tous les esprits. L'Afghanistan, où les États-Unis ont riposté après l'attentat de jeudi à Kaboul. L'armée américaine annonce avoir mené une attaque au drone contre l'État islamique. Dans ce contexte très tendu, la France confirme l'arrêt des évacuations après avoir accueilli 2600 ressortissants afghans. Pour les associations humanitaires, un long travail commence. Alors que certains pleurent leur famille restée là-bas, vous entendrez le témoignage bouleversant d'Akhtar. Combien seront-ils à manifester contre le pass sanitaire ? Après deux samedis en baisse, les antipasses mobilisent dans 200 villes. Nous serons à Denfert-Rochereau à Paris pour prendre la température de cette nouvelle journée d'action. C'est encore l'été, Céline Dacosta, sur la moitié sud de la France.
Oui Anaïs, ils ont bien de la chance. Le soleil va encore briller largement au sud de la Loire avec des températures estivales puisqu'on aura une moyenne de 24 à 30 degrés. Petit bémol pour le nord de la Corse, on aura un petit peu plus de nuages. Pour les Alpes-Maritimes aussi, avec là un risque d'averse et même d'orage en fin de journée qui pourrait déborder sur le Var. Pour la moitié nord, en revanche, ça va rester frais pour la saison. On l'a remarqué déjà ce matin, 19 à 23 degrés seulement en moyenne pour cet après-midi. Avec un vent un petit peu frais qui ne va pas ranger nos affaires. La bonne nouvelle, c'est que les éclaircies seront de retour, même si les nuages resteront largement présents près des frontières du nord, avec quelques coups de tonnerre possibles en fin de journée entre l'Alsace et la Bourgogne.
Merci beaucoup Céline Dacosta. À 13h, Marianne Chazelle, c'est vous qui ferez la météo.
Très alors, bien. Oh, voilà. J'aime beaucoup la météo. Voilà. Vous savez que c'est un sujet passionnant.
Le journal inattendu sur RTL.
Ne pas baisser la garde face à l'État islamique, c'est le message de fermeté d'Emmanuel Macron depuis Bagdad, où il assiste à une conférence sur la stabilité de l'Irak et de la région. Il est le seul chef d'État occidental présent. Brice Dugénie, vous êtes à Bagdad, bonjour.
Bonjour.
Dans le contexte de désengagement militaire américain au Moyen-Orient, les forces en présence multiplient les initiatives de dialogue.
Oui, même si l'Afghanistan ne fait pas partie des pays invités à cette conférence, car ce n'est pas un pays du Moyen-Orient, la situation à Kaboul est dans tous les esprits, d'autant que l'Irak est également concerné par la menace terroriste de l'organisation État islamique, comme l'a rappelé le président français ce matin aux côtés du Premier ministre irakien.
Daesh a été défait territorialement en 2017 grâce au courage des forces armées irakiennes et avec l'appui de la coalition internationale. Et nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde, car Daesh demeure une menace. Et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité. Je veux ici vous redire l'engagement de la France à vos côtés.
En marge du sommet, Emmanuel Macron souhaite d'ailleurs s'entretenir avec l'émir du Qatar. Le Qatar, vous savez, c'est un pays très important car il a offert l'hospitalité aux dirigeants talibans en exil ces dernières années. Et les négociations entre Américains et talibans se sont déroulées à Doha, la capitale du Qatar. Donc pour le président Macron, la proximité de l'émir avec les talibans en fait un interlocuteur important. L'enjeu, par son intermédiaire, est de négocier, trouver une solution pour reprendre de possibles évacuations, notamment de ces Afghans bloqués à Kaboul et menacés par les talibans.
Brice Dugénie, envoyé spécial en Irak pour RTL. La riposte américaine n'a donc pas traîné. L'armée annonce avoir mené une attaque au drone contre un organisateur de l'État islamique. La cible a été tuée dans la province afghane du Nangar. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre près de l'aéroport de Kaboul puisque la menace d'un nouvel attentat reste très élevée. La France a par ailleurs annoncé cette nuit l'arrêt des évacuations d'Afghanistan puisque les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes à l'aéroport. Le dernier avion doit arriver à Paris aujourd'hui. En tout, 2600 Afghans ont été accueillis pour Delphine Rouillot, directrice générale de l'association France Terre d'Asile. Un long travail commence.
Maintenant, l'enjeu, c'est de leur offrir non pas un hébergement de courte durée, mais vraiment des moyens d'intégration. Donc, on suppose que la plupart des personnes vont demander l'asile, donc la protection de l'État français. On espère, on suppose que l'État français leur accordera, évidemment. Et derrière, l'enjeu, c'est que les collectivités locales, qui se sont, par exemple, beaucoup mobilisées en se disant prêtes à accueillir, eh bien, faut qu'elles nous aident, faut qu'elles aident l'État, qu'elles aident les associations à trouver des logements, à proposer des solutions de longue durée, parce que le problème de l'intégration en France, c'est pas les quelques semaines d'hébergement au début de l'arrivée sur le territoire, c'est véritablement la capacité à s'inscrire durablement sur le territoire. Donc voilà, trouver un appartement, trouver un travail, apprendre le français et inscrire ses enfants à l'école et tout simplement se construire une nouvelle vie.
Delphine Rouillot, directrice générale de l'association France Terre d'Asile, jointe par Benjamin Boukrich pour RTL. Certains n'ont en effet pas eu la possibilité de partir. Je vous propose d'écouter un témoignage bouleversant, c'est celui d'Akhtar. Il a travaillé pour l'armée française, il vit ici aujourd'hui, mais il n'a pas réussi à faire venir les siens. La semaine dernière, il a perdu son frère, torturé par les talibans. Et jeudi, deux membres de sa famille ont péri dans l'attentat de Kaboul. Il est en état de choc.
Je perds mon grand cousin. Et l'autre, le deuxième, il est toujours disparu. Avant de partir, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, on va y aller avec les papiers, les documents et tout, s'ils nous reçoivent à l'entrée de l'aéroport, vu qu'il y a plusieurs milliers de personnes. Du coup, ils attendaient. Et ma mère, pareil et tout. Et finalement, il y en a un qui est parti et l'autre, on n'a même pas trouvé. Et samedi dernier, deux pick-up, ils s'arrêtent, ils capturent mon petit frère. Ils l'ont torturé à mort. Et il m'a envoyé des photos après. J'ai rendu du service pour la France, pour l'armée française pendant des années. Je me sens désespéré et abandonné.
Témoignage bouleversant, donc recueilli pour RTL par Lucille Bess. Pour la septième fois, les opposants au pass sanitaire vont battre le pavé à Paris et dans plus de 200 villes de France, de Toulouse à Dunkerque, de Livarot à Strasbourg. Les manifestants entendent protester contre la loi validée par le Conseil constitutionnel et qui est entrée en vigueur le 9 août. Une loi qui fixe l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour de nombreux professionnels, dont les soignants. Mais depuis deux semaines, la mobilisation semble marquer un coup d'arrêt. Nérissa Emani, vous êtes un enfer Rochereau au départ d'une des quatre manifestations parisiennes. Est-ce qu'il y a du monde, Nérissa ?
Écoutez, pour l'instant, une centaine de personnes sont réunies sur la place. Toutes sont vêtues de blanc en soutien au personnel soignant soumis à l'obligation vaccinale, mais aussi pour montrer, disent-elles, que le mouvement est pacifique. Ces manifestants répondent à l'appel du collectif citoyen Paris pour la liberté qui se mobilise chaque samedi contre le pass sanitaire. Chacun se défend d'appartenir à un mouvement politique. Ici, on croise des gilets jaunes, des infirmiers, des retraités, une mère au foyer, mais aussi un chercheur en biologie. Bref, des profils bien divers, mais un discours assez uniforme contre la politique du gouvernement. Le pass sanitaire est par exemple associé à un pistage numérique. Tous se méfient d'un vaccin dont les effets néfastes à long terme ne sont pas connus. Beaucoup me parlent aussi de traitements alternatifs contre le Covid. Alors, pour l'instant, ces manifestants préparent leur pancarte. Liberté, stop au pass sanitaire de la honte. Le cortège partira de cette place d'enfer Rochereau dans le 14e arrondissement à 14h.
Nérissa Emani en direct à d'enfer Rochereau à Paris pour RTL. RTL. Une explosion est entendue ce matin dans le port d'hier, dans le Var. C'est une information de notre correspondant à Marseille, Hugo Hamelin. La détonation a eu lieu sur un bateau de 8 mètres qui se rechargeait en carburant. Une importante colonne de fumée noire était visible de la plage. Il y aurait plusieurs blessés. Les sapeurs-pompiers sont sur place. Une pause et dans un instant, les vacances, c'est fini.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Marianne Chazelle et Anaïs Bouton.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'épaule. Depuis...
Marianne Chazelle, c'est votre journal inattendu. Et avant de vous accompagner sur les planches, c'est la suite du journal. Et pour Brigitte Bardot, comme vous, pour vous Marianne, qui reprenez les répétitions pour la pièce, et pour tous les Français, c'est la fin des vacances. La plage abandonnée, une saison estivale qui, dans le contexte épidémique, a été, je cite, « sauvée », d'après le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. 85% des Français sont restés sur le territoire. Et parmi ceux qui rentrent ce week-end, il y a Emma, une maman pleine d'énergie, et Zoé et Charlie un peu angoissés. Raphaël Vantard est allé faire un tour sur l'aire de Cérézin-sur-Rhône, sur l'autoroute A7.
En plus des kilomètres et des bouchons, il faut effectivement affronter sur cette route du retour des vacances la petite angoisse de la rentrée et du retour au travail. C'est plutôt simple pour Emma, maman de 3 enfants, radieuse après 2 semaines de vacances. La route pour rentrer à la maison se passe plutôt bien avec une organisation de conduite millimétrée.
Bah ça se passe bien, c'est pas moi qui conduis, mais c'est le papa qui conduit, mais ça se passe bien. On fait une petite pause, il est fatigué, il dort un peu et on repart après.
La route du retour, elle a un petit parfum de rentrée quand même ?
A un gros parfum de rentrée même. On reprend le travail dès lundi, donc ouais, ça va être rigolo de retravailler quoi.
Rentrée amusante, donc pleine d'énergie pour la maman, c'est clairement plus compliqué pour Zoé et Charlie, les deux petites filles. Elles auraient bien prolongé le séjour au bord de la mer.
On a été avec mon frère, ma sœur et mon père en vacances dans un appartement, dans un camping. Là, il y a des piscines. On a été à la mer et puis on a fait des choses. J'aime pas du tout la rentrée.
Je peux rester avec ma maman.
Allez, courage, petite. Il va rester malgré le retour à la maison encore quelques jours pour profiter de papa et de maman avant de retrouver, en plus du maître ou de la maîtresse, les copains de l'école.
Merci Raphaël Vantard sur l'aire de Cérézin-du-Rhône pour RTL. Vous aimez la rentrée, vous, Marianne Chazelle ?
Ah, celle-ci, oui, cette année, oui. Petite, non, pas du tout. Maintenant, au contraire, j'apprécie, là.
Allez, une petite brève de sport. Jeux paralympiques de Tokyo, le français Alexis Anquincan décroche son 3e titre olympique. Il a été médaillé d'or au triathlon. Au total, la France compte pour l'instant 19 médailles et prend la 11e place au classement général. Ça vous inspire les Jeux paralympiques ?
Ah, ça me bluffe complètement. Je suis impressionnée par d'abord les performances physiques qu'arrivent à faire ces gens et puis surtout les conditions dans lesquelles ils les font et la volonté que dont ça témoigne l'entraînement. Enfin, je suis vraiment, c'est une leçon de vie. Et il faudrait le regarder plus souvent, parce que nous, quand on se lève et qu'on râle parce qu'on a 3 courbatures...
Oui, ça fait de très bonnes audiences, en plus.
Oui. Tant mieux. Et vraiment, je pense que ça aide à changer le point de vue sur ce qu'on vit. Handicap. Ouais. Et sur le handicap, bien sûr.
Alors, Marianne Chazelle, vous revenez donc sur les planches auprès de Régis Laspalès. Ouais. Quelle chance ! Il a tenu à faire la présentation de la pièce « La famille et le potager » de Bob Marley. Bonjour, Régis.
Bonjour Marianne, bonjour Anaïs. Alors, un petit résumé de notre pièce. Eh bien, je suis, moi, Denis, un peintre raté. Je peins des tableaux depuis 40 ans et j'en ai jamais vendu un seul. Je suis entretenu par ma femme, Marie, qui est une riche héritière, qui elle-même ne fait pas grand-chose. Et nous avons un fils raté. Et ce fils va faire une chose absolument incroyable. Alors, là, je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, ce à quoi vous allez assister ensuite, c'est du jamais vu. Et on ne le souhaite à personne, hein. Même à son pire ennemi. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Il est bien mystérieux quand même, Régis Laspalès. Il est mystérieux, voire un peu inquiétant.
Il y en a qui ont essayé.
Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes.
Vous qui avez essayé, est-ce que vous avez eu des problèmes
en faisant
en jouant avec Régis Laspalès.
Ah, avec Régis, aucun problème. Non, non, c'est un homme délicieux. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. On est sur la même longueur d'onde par rapport à l'humour très déjanté, assez provocateur de cette pièce. Hein. C'est pas du plan-plan. Hein.
Ah non,
c'est,
pas du tout.
Ça bouge, ça secoue.
Il fait pas que un truc grave, votre fils. Hein.
Non, en plus, franchement, on l'a totalement loupé. C'est oui, un pauvre, c'est une catastrophe. Mais justement, on teste jusqu'où peut aller l'amour maternel et paternel, vous voyez. Jusqu'où vous êtes capable d'aller. Mm-hmm. Quand votre fils fait une très, très, très grosse boulette.
Oui, une boulette.
Voilà, une grosse boulette. Donc, on s'amuse beaucoup. Et là, on est en plein boulot. Donc,
Alors justement, le théâtre, c'est votre premier amour. Vous l'avez dit dans votre autoportrait. Et avec vos copains du lycée Pasteur à Neuilly, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, vous aviez trouvé un professeur extraordinaire. Écoutez.
Chacun a développé ce qu'il était. A fait de lui-même son propre personnage. Un petit peu comme dans la Commedia dell'arte, vous savez, où Paul Schinel était des personnages qui se jouaient eux-mêmes. Et c'était leur propre nom. Et ils ont imposé ce leur personnage comme un type.
Marianne, le théâtre, c'est votre vraie passion?
J'adore. Bon, j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est jouer. Alors, c'est vrai que jouer sur une scène de théâtre, jouer devant une caméra, c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même joué. Mais c'est vrai que le théâtre, les planches, l'ambiance du théâtre...
Ça palpite, le théâtre, non?
C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de risque. La pièce vous appartient quand vous êtes un acteur. Le film ne vous appartient pas quand vous êtes un acteur dans un film. Au théâtre, ça dépend de vous. C'est vous qui vous balancez. Moi, je suis toujours surprise et émerveillée de ce qu'il y a du monde dans la salle, de ce que les gens se sont déplacés pour nous voir. Et puis après, il faut se lancer, puis on verra bien ce qui se passe.
Eh ben on verra ce qui se passe. Vous restez un instant. Vous restez avec nous et dans un instant, Louis de Funès dans le journal de l'inattendu. A tout de suite sur RTL.
C'est chouette. Le journal inattendu de Marianne Chazelle.
Avec Anaïs Bouton sur l'alcool.
Le journal inattendu de Marianne Chazelle.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
C'est qui cette blondasse?
J'ai dansé avec une douzaine de femmes, j'ai pas noté leur identité à chaque fois.
Grande, assez mince, un air de pétasse. Tu l'as déjà rencontrée avant ce soir.
Quoi?
Est-ce que tu me poses la question? Si je couche avec un veuf, il a un côté très printanier qui me fait un bien fou.
Ah oui, parce que vous aimez le printemps et le mimosa. Hein. Marianne Chazelle, vous avez joué avec des cadors de la scène. Michel Sardou, Patrick Chenet qu'on vient d'entendre. Avec Cilia Chelton qu'on a entendu aussi. Vous avez appris la technique. Vous jouiez Ondine, vous jouiez Tchekhov, Proust, Ionesco.
Oui, c'est-à-dire qu'on jouait des textes totalement classiques.
Exactement.
À une époque où ce n'était pas du tout, entre guillemets, pratiqué.
Mais vous n'avez pas été sur scène en France avec des pièces classiques. Pourquoi? Est-ce que c'est la malédiction des comiques?
En tout cas, j'ai joué du Molière pour la télévision.
Oui, vous avez joué le Malade Imaginaire.
Absolument. Mais sinon, c'est vrai que les pièces de répertoire que j'ai jouées, c'était de la comédie, vous avez raison, c'était du Feydeau, c'était des auteurs de comédie. Je crois qu'en France, on cloisonne beaucoup, vous savez, il y a cette tradition, c'est compliqué de sortir de sa case, là, quand ça dépasse, c'est quand même quelque chose qui existe vraiment.
C'est quand même génial, cette phrase.
Il y a peut-être aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir.
Et en même temps. Hein, ça dépend.
Voilà. En France, c'est un peu plus ça. Bon, il y a des gens qui peuvent le faire. Moi, j'arrive à le faire plus sur le tard maintenant, avec des rôles dans des contextes où je peux jouer des personnages plus graves, plus vieux, plus atteints, tous ces personnages plus négatifs, enfin plus noirs. Je dirais pas négatifs, plus noirs. Mais c'est vrai que pour le théâtre, ça s'est jamais présenté.
Ouais.
Mais bon.
On a eu envie de revoir un peu Louis de Funès, enfin de le réentendre, parce que un de vos films de chevet, c'est Le Petit Baigneur.
Oui, ah oui, non, franchement.
Et lui, il n'a pas eu vraiment de rôle. Il a connu une notoriété tardive. Et il n'a pas eu vraiment de rôle comme Coluche a pu avoir avec Tchao Pantin, par exemple. Petit Baigneur.
Mais vous savez, je n'ai pas toujours été comme ça. Lorsque j'étais tout petit, ma bonne grand-mère m'appelait son petit baigneur.
Non.
Son petit baigneur.
Oh, quelle coïncidence.
Quelle coïncidence. Oh. Et pour m'endormir, cette bonne mémé me chantait.
Oh non, oh, vous n'allez pas chanter.
Si, je chantais là. Elle me chantait. Ferme tes yeux, mon bébé, mon bébé.
Alors nous, on garde les yeux bien ouverts. Qui sont les comiques et les acteurs que vous aimez en ce moment?
Oh, en ce moment, j'aime beaucoup de gens. J'aime, j'aime ce... Adieu les cons.
Je vous prends un peu au dépourvu.
Dupontel, j'adore Dupontel. Hein, je trouve que c'est un acteur absolument merveilleux.
Réalisateur,
ouais. En plus brillant. Je suis plutôt bienveillante à l'égard de la profession.
Je sais, vous êtes quelqu'un de plutôt bienveillant. Je l'ai découvert. Enfin, je ne l'ai pas découvert, je le savais, mais en travaillant sur votre cas pour ce journal inattendu. Quelqu'un d'autre vous a montré la voie du théâtre. Écoutez.
C'était quelque chose de tout velu, avec de très grandes pattes.
Une cigogne.
Ouais, ça, c'était un indien dans la ville, votre maman, oui. Luba Garchinkov, qui a commencé sa carrière à 44 ans, racontez-nous.
Mais oui, parce qu'en fait, maman avait épousé mon père qui était pasteur. Mmh. Donc, vous savez, quand on est femme de pasteur, c'est compliqué de faire une carrière à côté, alors qu'elle avait toujours eu envie de faire ça. Mais par contre, elle se rattrapait en faisant des petits cours d'art dramatique à l'intérieur des paroisses où elle était. Et lorsqu'elle est arrivée à Paris, elle a retrouvé des jeunes qu'elle connaissait de Nice et elle s'est lancée et c'est devenu, ça, elle a participé à la création du Théâtre du Soleil. Et c'est là où elle est partie, où elle a enfin pu faire ce qu'elle aimait avec un plaisir fou et elle est partie dans cette aventure jusqu'à la fin de ses jours.
Sur la scène du Théâtre des Variétés, vous allez jouer auprès de Régis Laspalès dans quelques jours, les grandes bourgeoises des Invalides, oui. Extrêmement friquées.
Oui, c'est une femme très fortunée.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage ?
Ah, elle me touche énormément parce que elle est totalement à côté de la plaque, vous voyez.
Elle est complètement déjantée.
Elle est complètement névrosée, oui. On peut dire même très, très, très touchée, très névrosée. Je pense que cette fortune a fait son malheur, hein. Ça l'a rendue totalement impuissante à quoi que ce soit.
Et pas connectée au réel, en fait.
Voilà. Elle est dans une bulle, elle est dans un monde, elle sait pas du tout ce qui se passe pour de vrai. Elle est ailleurs et elle aimerait bien faire. Elle aimerait être utile, faire des choses bien et évidemment, elle n'y arrive jamais. Et alors, en plus, avec le fils qu'elle a, c'est mal barré.
Mais c'est une pièce qui fait réfléchir aussi un peu, parce qu'en filigrane, il y a l'affaire des migrants qui bouleverse la société française.
Cet univers de gens qui sont, lui, comme il disait très justement, il n'a jamais exposé, sauf dans l'appartement, en fait. Ils ont un grand appartement, je pense, de 400 mètres carrés, vers les Invalides. Mmh. Et ce sont des gens qui sont totalement en dehors du monde et en dehors de la réalité. Et l'histoire va faire qu'ils vont se confronter de façon très brutale et très immédiate à ce qui se passe à côté, dont ils ont extrêmement peu conscience. Donc c'est intéressant d'avoir le regard, mais comme c'est de la comédie, et comme Bob Martel était quelqu'un qui est assez politiquement incorrect, hein, ouais. C'est ce qu'on aime dans son écriture aussi, il tape, il donne un coup de pied dans la fourmilière en fait, il tape dedans et puis on verra bien ce qui se passe.
Non mais c'est intéressant d'utiliser des thèmes d'actualité dans une pièce comique. Vous voyez, on avance
tout à
un
fait.
Peu masqué.
Oui, c'est pas du tout du boulevard classique.
C'est une façon de dire des choses. Non, pas du tout.
C'est pas du tout le mari, l'amant, là, vous voyez, dans le placard. Non, c'est vraiment sur une réalité, bon, qui est évidemment transposée, qui est excessive et qui devient, oui, très excessive parce que c'est de la comédie. Mais ça parle de choses vraies, ça parle de choses qui se passent et ça parle d'une confrontation entre deux milieux dans des situations différentes et qui arrive à un feu d'artifice, à un festival dont je ne vous parlerai pas parce qu'il faut garder
la surprise. On peut pas,
il faut garder ces rebondissements qui vont, j'espère, tenir en haleine notre spectateur.
Oui, vous avez raison de l'espérer. Allez, dans un instant, le rappel des titres. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL. Bonne journée avec RTL.
RTL, revivre ensemble.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Marianne Chazelle.
13h, les titres de l'actualité.
Anaïs Bouton.
Une explosion entendue ce matin dans le port de Hyères, dans le Var. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Alors, que s'est-il passé? Que pouvez-vous nous dire? La détonation a eu lieu sur un bateau de 8 mètres.
Exactement, une colonne de fumée noire visible à plusieurs centaines de mètres, c'est ce qui a donné l'alerte. Après cette forte explosion qui a déclenché un incendie immédiatement sur ce bateau de plaisance, une trentaine de sapeurs-pompiers du Var sont sur place. Il y a 3 victimes, une personne brûlée sur l'ensemble du corps, elle est en urgence absolue, elle a été transportée dans un hôpital de Toulon. Il y a 2 blessés plus légers qui étaient également à bord, et puis l'embarcation en flammes, ensuite dérivée dans le port, abîmant 2 autres voiliers. L'incendie est désormais maîtrisé.
Merci Hugo Hamelin. Hier pour RTL. Pour le 7e week-end consécutif, les opposants au pass sanitaire mobilisent ce samedi dans plusieurs villes de France. Ils battent le pavé pour s'opposer au pass sanitaire, mais aussi pour s'opposer à la vaccination des enfants de moins de 12 ans. Un enjeu majeur pour les parents présents dans les cortèges. Ne pas baisser la garde face à l'État islamique, c'est le mot d'Emmanuel Macron depuis Bagdad. Le président est en Irak. Pour un sommet régional cette nuit, la France a cessé son pont aérien avec l'Afghanistan. 3000 personnes, dont plus de 2600 Afghans, ont pu être mises en sécurité. L'Afghanistan, où les États-Unis ont riposté après l'attentat de jeudi à Kaboul, l'armée américaine annonce avoir mené une attaque au drone contre l'État islamique et tuer un de ses dirigeants. C'est une rentrée très politique. Valérie Pécresse à Brive, Michel Barnier et Philippe Juvin à La Baule, Éric Ciotti près de Nice. Les candidats à la primaire de la droite tentent de mobiliser à gauche. Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon interviennent auprès de leurs militants à l'occasion des universités d'été de leurs partis respectifs. La maire de Paris, qui a promis hier une très belle aventure démocratique aux militants, sans toutefois annoncer officiellement sa candidature. Et puis, en football, suite de la 4e journée de Ligue 1 aujourd'hui, après la victoire de Lyon à Nantes hier 1-0, Nice reçoit Bordeaux à 17h et à 21h, Saint-Etienne sera à Marseille. Une rencontre à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous à 20h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. La météo, c'est à vous de faire la pluie et le beau temps sur RTL, Marianne Chazelle.
Ah, la météo du jour. On prend les mêmes et on recommence, puisque c'est quasiment la même carte qu'hier, avec des nuages et des éclaircies pour la moitié nord. Heureusement, j'ai pas la carte, vous savez, pour montrer les dessins. Parce
pourtant,
que
c'est bien,
je ne m'y retrouverai pas. Le tout sous des températures toujours justes pour une fin août. Avec une moyenne de 19 à 23 degrés cet après-midi. C'est pas terrible. Pour la moitié sud, en revanche, c'est plus agréable, plus chaud. Avec 26 degrés à Bordeaux. Oh, ça c'est pour Philippe. 27 à Toulouse. Jusqu'à 30 degrés attendus à Montpellier. Le soleil va encore briller, largement. On aura jusque quelques nuages et un faible risque d'averse sur les Alpes-Maritimes qui pourraient déborder sur le Var. Le soleil jouera aussi à cache-cache avec les nuages en Haute-Corse.
Ah,
bon, ça je prends
ça
note.
C'est cher à
voilà. Ça je prends note, donc je vais leur dire tout de suite. Et notamment en Balagne, ça c'est chez moi,
ouais.
Région chère à mon cœur.
Merci.
Merci.
Beaucoup, Marianne Chazelle.
Le journal inattendu de Marianne Chazelle.
Avec Anaïs Bouton sur RTL.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie, parce que c'est une chanson que vous écoutiez enfant. Votre sœur avait acheté le disque, c'est
exactement,
ça?
Et là, à chaque fois que je l'entends, mais je trouve que c'est un bijou, avec cette voix acidulée qu'elle a, et à la fois très douce, enfin très, très nostalgique et en même temps très coquine. Enfin, c'est un bonheur. Je trouve que ça vieillit pas du tout, c'est très agréable à entendre.
Et Le tourbillon de la vie aussi, parce que de loin, ça représente assez bien votre relation avec le théâtre du Splendide. On s'est reconnus, on s'est connus,
oui.
On s'est perdu de vue. Non,
c'est vrai, vous avez fine mouche. C'est pas faux. Alors, on s'est jamais séparés, vraiment, parce qu'il n'y a pas eu de clash ou de... Mais bon, on s'est découvert tout jeune, hein, puisqu'on avait 14-15 ans. Et on a construit quelque chose ensemble, on a eu des aventures merveilleuses, des moments de peur, des moments d'angoisse et surtout des moments de rire. On a partagé cette complicité-là.
Oui, justement, vous êtes retrouvés tous sur la scène des Césars cet hiver. Et vous, Marianne Chazelle, vous avez dit quelques mots probablement les plus délicats de cette très improbable soirée.
C'est qu'en fait, tout ça s'est arrivé parce qu'il y a eu deux choses majeures dans notre vie, en dehors de notre jeunesse de l'époque. C'était qu'on s'aimait et c'est qu'on riait ensemble. Et c'est ça la clé de ce qui s'est passé après. Voilà.
C'était très délicat. Ça, c'est un peu les clés de la vie, non ? S'aimer et rire ensemble.
Oui, on ne le sait pas tout de suite au départ. Hein.
Non.
On ne s'en rend pas forcément compte. C'est après qu'on peut faire une forme d'analyse, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, mais il n'y avait pas de plan de carrière, il n'y avait pas de... On n'était pas là pour être connus, c'était l'ambition de personne dans le groupe, mais c'était de jouer, de travailler ensemble, de faire ce qu'on avait envie, qui nous habitait, qui était de s'exprimer, de jouer, de communiquer, de partager ce rire qui nous habitait. On ne sait pas pourquoi, hein, c'était notre truc à nous. Mais c'est vrai, quand on a ça dans la vie, c'est vraiment une aide considérable.
Ce que vous dites à votre fille, Margot, qui travaille dans l'humanitaire.
Oui, enfin, je lui dis plus grand chose parce qu'elle fait comme elle veut. Elle, ouais. Vous savez, il y a
mais
un moment donné.
C'est ces clés-là que vous lui avez donné.
Ou les enfants. Oui, oui, oui. En tout cas, elle a vu qu'on le vivait avec son père. Elle a vu combien c'était important pour nous. Tout à fait. Alors, et la passion de ce qu'on fait.
Oui.
Je pense que c'est vraiment ça aussi. C'est...
Elle a la passion.
Oui, c'est ça. C'est aimer ce qu'on fait parce que je pense que faire un travail qu'on n'aime pas, ça doit être la pire des punitions pour la vie.
Cette soirée, pour y revenir deux minutes, ça a été une soirée assez militante, politique. On y a beaucoup parlé des minorités, des femmes, de la parité. Est-ce que ça vous préoccupe, vous, la parité dans le cinéma, dans le théâtre? Est-ce que, par exemple, vous gagnez autant que les garçons?
Alors, c'est rigolo parce que dans notre métier, on ne dit pas combien on gagne. Vous savez, on n'est pas du tout comme
les
Américains.
Garçons, excusez-moi.
Ah ben, largement. Et là, moi, s'il y a une chose pour laquelle je milite, c'est pour l'égalité. Par rapport au salaire, ça c'est évident. Moi je fais partie d'une génération où les droits des femmes, on s'est vraiment battu pour. Quand j'étais gamine à Nanterre, j'étais à l'université de Nanterre, je faisais partie du MLF. Oui. C'était un groupe de filles, on était habillées, on avait des Clarks, des jeans rayés, les cheveux gras. Mais par contre, on était très très concernées. Et on voyait des choses terribles. Hein. Il y avait à côté, il y avait des barres d'immeubles où il y avait des femmes qui vivaient, qui se faisaient avorter dans des baignoires.
Ouais,
c'était vraiment une époque où l'avortement commençait, on en parlait, c'était pas encore autorisé, ou c'était en train d'être autorisé. Donc je suis tout à fait sensible à ce genre de sujet, mais je pense qu'il y a des hiérarchies dans les préoccupations.
Et enfin, l'égalité salariale, c'est peut-être quand même la mère de toutes les batailles.
Oui, hein. Je pense, parce que c'est d'ailleurs une des choses que ma mère m'a passées. Une des rares choses dont je me souvienne, bizarrement, mais elle me disait toujours, soit autonome, soit indépendante. Une femme, il faut qu'elle puisse être libre pour pouvoir partir si ça se passe mal, pour pouvoir assumer ses besoins si elle est seule, pour pouvoir élever ses enfants si elle se retrouve seule. Et je pense que c'est vraiment la clé de la liberté des femmes, c'est cette égalité salariale.
Et elle ne l'était pas, elle, pourtant, autonome et indépendante.
Pas du tout. Et d'ailleurs, elle se rendait bien compte qu'elle en souffrait. Bien sûr.
Donc là, techniquement, vous ne savez pas si vous gagnez autant que Régis Laspalès sur
la
scène.
Non, je n'ai pas demandé.
Enfin, Marianne, mais qu'est-ce que
vous
c'est que cette histoire? Mais ouais, vous allez vous
Régis,
renseigner.
Je vais t'appeler, tu vas voir, ça va dérouiller si tu gagnes plus que moi. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très choquant. Bah, même à niveau très élevé, quand entre deux stars importantes, l'homme sera toujours plus payé. C'est aberrant. C'est une chose qui est absolument invraisemblable. Invraisemblable. Bon. Et comme on monte plus d'histoires sur les garçons, sur les hommes, comme il y a plus d'hommes en politique, mais ça on le comprend, parce que c'est compliqué encore d'arriver à faire une carrière politique et d'avoir une famille. Il y a beaucoup de femmes qui hésitent à y aller pour ça, parce que ça fait des vies. Déjà, on a trois vies quand on est marié, qu'on a un boulot, qu'on a des gosses. Alors là, si en plus vous avez une ambition politique, où passe le reste?
Oui.
C'est difficile.
C'est très difficile. Vous avez pu
ménager
ces deux carrières, vous, mère et comédienne?
J'ai essayé, j'ai fait des choix. Il y a certaines fois où j'ai pas fait des choses parce que je voulais être avec ma fille. Il y a certaines choses que ma fille m'a reprochées parce qu'elle a trouvé que j'étais pas suffisamment là, certainement. On fait comme on peut. J'ai essayé, mais je pense que c'est compliqué. Ça s'arrange, hein. Il faut pas se plaindre. Moi, je me plains pas du tout. Et je pense que par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, ça n'a rien à voir. Les choses bougent. Mais il y a encore du chemin. Il y a vraiment du chemin.
Alors, une autre cause qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur, c'est que vous êtes la marraine de l'association RL, qui aide les femmes confrontées au cancer.
Oui.
Parler des femmes.
Absolument.
Que fait cette association rapidement?
Alors, c'est un fonds de dotation qui a été créé par Christine Salin, qui est une femme extraordinaire, et qui m'a proposé, il y a 10 ans déjà, avec Patrice Lecomte, d'ailleurs qui est le parrain, d'être la marraine de cette fondation. Et cette fondation, en fait, elle propose aux femmes un quotidien, une aide dans le quotidien, parce qu'on s'est rendu compte que cette maladie provoquait une perte de confiance, une destruction de son image, et les femmes se retrouvent très seules, face à elles-mêmes, face à leur physique, face à leur problème. Donc on propose des soins, on propose des massages, on propose des perruques qui soient accessibles. Ces choses qui semblent minimes, mais qui sont extrêmement importantes pour soutenir une femme qui lutte contre cette maladie. Et grâce à elle, ça fait 10 ans qu'on est parti dans cette aventure, c'est une petite association, mais on fait un gros boulot, surtout Christine, qui est une femme vraiment, vraiment d'une générosité, qui me bluffe à chaque fois, elle me bluffe. Et tous les ans, on fait notamment une fête avec le Crazy Horse, parce qu'on a un partenariat avec les filles du Crazy, qui sont sensationnelles, qui offrent un spectacle, et on fait une soirée pour trouver des fonds. C'est une aventure que je partage avec elle depuis 10 ans, et j'en suis très très heureuse.
Alors, vous avez souhaité évoquer un lieu aussi qui vous tient à cœur, l'Institut Vavilov. Et alors ça, on a fait une découverte merveilleuse grâce à vous, merci beaucoup. Alors, c'est à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est le nom d'un botaniste qui travailla pour l'Union soviétique. Et cet institut
contient l'une des collections de semences alimentaires de graines les plus importantes du monde. Ce lieu, vous l'avez découvert grâce à un photographe suisse, Mario Del Quarto. Courteau, je crois, oui. Qu'ajoute Virginie Garin, on écoute son sujet.
Dans cet institut sont conservées 50 000 variétés de blé, 4 500 de pommes de terre, 4 000 de fraises, récoltées dans le monde entier depuis un siècle. Mario Del Curto est allé plusieurs fois à Saint-Pétersbourg. Le photographe est tombé amoureux du lieu.
Quand j'arrive à l'institut, je découvre vraiment une collection absolument fabuleuse, des choses que j'aurais jamais imaginées et qui sont assez bouleversantes.
Des millions de graines sont conservées. Ici, pas d'ordinateur, le lieu est hors du temps.
Elles sont stockées dans des petits tiroirs et dans des boîtes en métal pour éviter que des rongeurs viennent se remplir la panse la nuit. C'est des couloirs extrêmement longs avec de chaque côté des milliers de boîtes avec cette image de ces petits carrés de métal qui se répètent. Et en fait, dans chaque boîte, il y a des trésors.
Pour que ces graines restent fertiles, les agronomes de l'Institut les sèment régulièrement en champ et régénèrent la collection. 1200 scientifiques et jardiniers veillent sur la génétique mondiale.
Et en fait, cet institut continue de perpétuer l'esprit de Vavilov qui, lui, par génie, on peut dire, et par intuition, et après par esprit et pratique rigoureuse scientifique, a pensé qu'il fallait conserver des variétés très anciennes. Parce que tout à coup, il peut y avoir une guerre, un incendie, un tremblement de terre, une inondation, et il y a des collections entières qui peuvent disparaître. Donc, plus il y en a qui existent sur la planète, plus la garantie de sauvegarder ces collections existe.
Et grâce à cette richesse génétique, les chercheurs peuvent mettre au point des variétés mieux adaptées.
Il y a du développement de nouvelles variétés, puisque les conditions climatiques changent, puisqu'il y a des problèmes alimentaires à résoudre sur la planète.
Nikolaï Vavilov avait été chargé par Lénine au début de la Révolution soviétique de créer des graines pour pouvoir nourrir le peuple. Il a laissé un héritage précieux aux générations qui devront faire face au dérèglement du climat. Alors merci à Marianne Chazelle d'avoir eu l'idée de nous faire découvrir cet institut. Et est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez rencontré ce livre de Mario Del Curto et pourquoi ce lieu est si important pour vous?
Écoutez,
alors merci Virginie Gard.
Merci Virginie. J'ai découvert ce lieu grâce au prix Redouté. C'est un prix qui a été fondé en 2000 par une dame qui s'appelle Barbara Nicolaï, qui est une merveilleuse femme et qui m'a proposé de faire partie du jury. Donc en fait, on est 10, et il y a un botaniste, il y a un paysagiste, il y a des gens qui ont des jardins dans lesquels ils peuvent justement expérimenter, voir la pousse des fleurs, des plantes, des arbres. On est tous passionnés à des niveaux différents, parce qu'il y a vraiment des savants, il y a vraiment des gens qui sont très balèzes. Moi, je passe là-dedans comme un petit peu, pas une amateur, mais disons une amoureuse des plantes et des fleurs et des arbres. Et ce prix, où on récompense à la fois des livres techniques, des livres de photos, il y a des photos d'art, d'écorce, des choses absolument magnifiques, nous est passé entre les mains ce bouquin que j'ai trouvé extraordinaire parce que ce dont ça parle, c'est-à-dire c'est un homme qui s'appelle donc Nikolaï Vavilov qui a été mes précurseurs puisqu'il naît à la fin du 19e siècle et qui va comprendre qu'il est très important de sauver et de protéger toutes les espèces cultivées comme les espèces sauvages parce que son but c'est nourrir, c'est qu'il n'y ait plus la faim dans le monde. Donc il va voyager dans tout le monde entier, il va aller dans tous les pays, dans des endroits les plus lointains, il prend des risques inouïs pour sa santé, c'est un homme exceptionnel, il parle 5 langues, il est extraordinaire. Sauf que le problème dans lequel il va tomber, c'est aussi bien cette recherche qu'il fait que son histoire personnelle qui m'a touchée. Cet homme qui a travaillé sur comment nourrir l'humanité va mourir de faim dans une prison soviétique. Parce qu'il va être pris dans un conflit sous Staline avec un autre botaniste que Staline préfère, parce qu'il pose beaucoup moins de problèmes que lui-même. Il va être enfermé, condamné à mort et il va mourir de faim dans une prison. Heureusement, Dieu merci, après, le temps va passer, il va être réhabilité, on va donner un prix à son nom et la communauté va reconnaître le talent et la clairvoyance de cet homme. Mais je trouve que c'est totalement passionnant.
Ça l'est. Et le livre, Les graines du monde, est disponible chez Actes Sud. Vous restez avec nous dans quelques instants en hippopotame à Versailles. Donc Marianne Chazelle sur RTL.
L'équipe.
Le journal inattendu de Marianne Chazelle
avec Anaïs Bouton sur RTL.
The Bird, libre comme un oiseau, c'est pour vous ça, Marianne Chazelle.
les Beatles. Alors, dites-moi, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, vient de mourir.
Oui.
Est-ce que vous versez votre petite larme ou est-ce que vous êtes définitivement Team Beatles?
Ah non, je l'adore. J'adore cette espèce de discrétion qu'il a toujours eu. On le voit dans les images quand on repasse en ce moment. Il est toujours un peu en retrait. Il a l'air un peu sceptique. Il écoute. S'il est jamais au premier plan pour faire les conneries. Ouais. Par contre, il est là solide derrière avec sa batterie. C'est un personnage magnifique. Magnifique.
Mais vous êtes fan des Beatles.
Ah oui, totalement. Ouais. Totalement.
Alors, on vient de l'entendre, Marianne Chazelle, vous aimez la nature, les plantes, les animaux, l'histoire. Et vous avez choisi de recevoir Alexandra de Broca. Son livre, Un rhinocéros à Versailles, vous a passionné. Vous avez eu envie de partager ce coup de cœur avec les auditeurs d'RTL. Bonjour Alexandra de Broca.
Bonjour.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Marianne.
Alors vous êtes l'auteur de ce livre, donc Un rhinocéros à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous en faire un rapide résumé?
Ah ben c'est l'histoire de la ménagerie qu'il y avait au château de Versailles, qui recevait les animaux sauvages offerts au roi. En cadeau diplomatique.
En cadeau diplomatique, oui. Mmh.
Voilà, donc vous avez eu des éléphants, des rhinocéros, des lions, de tout.
Et donc qui arrivaient par bateau, qui arrivaient après des années de voyage, trafic, j'imagine.
Un trafic épouvantable. Mmh. Et donc vous aviez, le rhinocéros, il est arrivé d'Asie, comme l'éléphant. Le lion est arrivé du Cap. Enfin, tout ça était assez affreux comme condition. Ils finissaient au Havre. Et là, ils étaient emmenés soit à pied pour le lion ou l'éléphant, soit dans des cages, comme pour le rhinocéros.
Alors,
le
dis-moi...
livre raconte, en fait, la fin de cette ménagerie au moment de la Révolution.
Et dis-moi, Alexandra, moi, ce thème m'a vraiment, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça tellement original et tellement intéressant. On n'en parle jamais de ces animaux. On les voit beaucoup dans les tableaux, on les voit dans les sculptures. Mais comment t'es venue l'idée de prendre cet angle-là pour parler, toi qui es une spécialiste de Versailles, pour parler de Versailles?
C'était une demande de l'éditeur qui m'a proposé de travailler sur un sujet insolite.
Oui, mais faut noter...
après avoir évoqué tous les membres de la famille royale dans mes précédents livres, j'ai eu envie de passer au monde animal et je me suis rendu compte que c'était terriblement contemporain.
Exactement. Mmh. Et il y a une très belle exposition à venir à Versailles qui s'appelle Les animaux du roi.
Absolument. Et aussi à Chantilly. Oui.
D'accord. Et alors dis-moi, est-ce que les gens avaient accès on pouvait voir, c'est un zoo, c'était la création du premier zoo?
Non. C'est une ménagerie privée. Comme à Chantilly, comme à Schönbrunn pour la famille de Marie-Antoinette. Mmh. C'était à usage complètement privé. L'animal appartenait au roi.
Et personne d'autre que la famille royale n'y avait accès, d'accord?
Oui, ou avec leurs amis, si vous voulez. Mmh. Mais ce n'était pas pour les scientifiques, ce n'était pas dans un esprit de recherche ou de divertissement pour le public.
Mais vous décrivez donc...
Ce n'est qu'après que ça l'est devenu, après la Révolution... quand il y a eu la création au Jardin des Plantes du premier zoo public.
Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Mais vous racontez l'état d'arrivée de ces animaux complètement exsangues, des animaux sauvages, captifs. Enfin, c'est assez bien rendu dans votre livre. Et ça permet quand même de faire un pont avec cette année, parce que finalement, les députés ont voté une loi sur la maltraitance animale. Mmh. Et parmi les mesures, plus d'animaux sauvages dans les cirques, justement, ou de dauphins dans les delphinariums. On dit que 4 siècles après, finalement...
On bouge
un peu.
Ouais.
Mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup bougé jusque-là.
Oui, ouais. Ça a pris du temps, ça a pris un temps fou.
Ça a pris beaucoup de temps.
C'est aussi dans les émissions de télévision, quand on était plus jeune, on trouvait tout à fait normal de voir un guépard qui passait dans une émission avec quelqu'un qui chantait à côté.
Mmh. Ouais.
Mais ça continue d'ailleurs, on voit bien des rappeurs extrêmement connus américains, très riches et tout, qui sont là avec leurs diamants, leurs montres, et puis ils ont un lion à côté d'eux, ils ont un tigre.
Oui, il y a encore du boulot, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Alexandra de Broca.
Merci.
Je rappelle le titre de votre livre qui paraît en octobre.
Absolument.
Un rhinocéros à Versailles. Merci infiniment.
Merci.
Restez. Au revoir, Alexandra. Restez avec nous. Quelqu'un a un message personnel pour vous, Marianne Chazelle. Tout de suite sur RTL.
Qui donc?
Le journal inattendu de Marianne Chazelle
avec Anaïs Bouton sur RTL.
journal inattendu de Marianne Chazelle avec Anaïs Bouton sur RTL.
Alors, Marianne Chazelle, vous aimez beaucoup Claria Luciani. Elle aurait pu être l'héroïne du film que vous réalisez, puisqu'elle a 28 ans. Au secours, j'ai 30 ans. Mmh. Vous aviez-vous choisi Nathalie Corré, Dubosc et Palmade? Est-ce que c'est un bon souvenir?
Oh, merveilleux.
Merveilleux. Oui, oui. Et vous auriez envie
de. À part les deux premiers jours qui ont été terribles.
Ah bon?
Parce que je pense que j'ai dû somatiser à fond et que je me suis retrouvée avec 42 degrés de fièvre le premier jour et plus de voix du tout. Mais après, oui, j'ai adoré.
Vous allez recommencer?
J'ai essayé, j'ai pas réussi. Maintenant, il faut que je trouve une bonne idée, je suis peut-être devenue un peu plus paresseuse.
Mmh. Alors on a un de vos comédiens justement, un comédien que vous avez dirigé. Une petite surprise pour vous. Bonjour Pierre Palmade.
Bonjour.
Comment ça va?
Bonjour Marianne.
Bonjour mon Pierrot Palmado. Mais je suis ravie de t'entendre.
Mais oui, mon dit.
Comment va mon vieux?
Eh ben ça va bien, je suis dans ma campagne et pris mon téléphone pour toi.
Oh, et c'est quoi la campagne?
Ça me fait très plaisir.
Et c'est vrai qu'au secours, j'ai 30 ans, quel beau souvenir.
C'est vrai.
On m'en parle, je pense qu'il repasse à la télé.
Ah, mais ouais. C'était un de tes tout premiers rôles au cinéma, Pierre.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. T'avais décidé de me voir dans ce personnage de trentenaire torturé.
Absolument, et amical. Et tu l'as très bien rempli.
Pierre Palmade, il y a quelques années, vous avez remonté le Père Noël avec votre troupe et Marianne Chazelle est venue vous voir. Vous en avez un bon souvenir?
Ah, mais c'était merveilleux, parce que Marianne, même si maintenant c'est une copine, c'est pour ma génération, c'est un ami splendide. Et même si elle n'aime pas qu'on la réduise à ça, ZZ, c'est un personnage mythique.
Ouais.
Donc, quand ils m'ont autorisé, c'est la première fois qu'ils autorisaient une troupe de théâtre à rejouer Le Père Noël est une ordure à Paris, quand ils m'ont fait confiance, quand Marianne est arrivée dans la salle pour voir la pièce, je tremblais comme une feuille.
C'est vrai.
Pour une fois, des gestes avec la d'habitude main. C'est l'inverse. Là, pour une fois, j'ai fait un peu peur à quelqu'un.
Ah là 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 là, je ne dis pas à la comédienne qui jouait son rôle, vu que dans quel état elle était. Et quand Marianne a dit, alors là, les gars, vous avez réussi, je cautionne à fond. Elle nous a donné sa bénédiction. Alors là, ça a été magnifique pour nous. Ça a été magnifique pour nous. Elle nous a aidé à faire la promo. Voilà.
Ce qui était très touchant,
la vraie
ZZ c'était.
Donne son oui.
Ouais.
Mais c'était drôle parce que j'avais l'impression que je jouais comme s'il y avait de l'écho. Parce qu'en fait, comme Pierre a été extrêmement respectueux et très très fidèle à la mise en scène d'origine et à la façon qu'on avait de jouer, toutes les répliques me revenaient, alors que ça faisait des années que j'avais plus du tout pensé à les répliques de ces répliques de films. Et j'entendais. Ça faisait un drôle d'effet de voir ça, d'être dedans et dehors en même temps.
Ouais. Oui, j'ai pas essayé d'en faire quelque chose de différent. J'ai vraiment voulu le refaire dans son jus.
Oui,
et donc je comprends qu'elle a eu un phénomène miroir.
Oui, exactement.
Mais vous avez bien eu raison parce que c'était très bien. Ah. Vous avez bien eu raison. Oui, je l'ai vu. C'était parfait. Pierre Palmade, on vous remercie du fond du cœur d'avoir pris
Pierrot, votre
portable. On vous retrouve, vous, à partir du 8 octobre sur la scène du Théâtre des Enfants du Paradis pour une pièce que vous avez écrite et qui s'appelle Assume Bordel.
Assume Bordel, voilà. C'est une scène de ménage entre deux garçons.
Ah là là. Bah, on a hâte de vous retrouver sur scène. Merci beaucoup, gentil. Pierre Palmade. Au revoir.
Moi aussi, je t'embrasse très fort, Pierre.
En attendant, la semaine prochaine, on va recevoir Karine Viard à 12h30 pour un nouveau journal inattendu et nouveauté.
Ah, voilà, vous me demandiez des acteurs que j'admirais tout à l'heure.
Voilà, Karine Viard.
Karine, pour moi, est une géante. Elle est à la fois dans la comédie, elle est à la fois dans des films sombres. Elle ose assumer des personnages complètement tordus et pervers. Chapeau bas, j'adore.
Ah bah super, on lui donnera un petit message, tiens, on lui dira. Nouveauté cette année sur RTL, Marianne, un autre passionné d'histoire comme vous rejoint l'antenne, c'est Laurent Deutsch. Bonjour Laurent.
Bonjour Anaïs. Oui tout à fait, je suis ravi de vous rejoindre sur RTL et chaque samedi de 13h30 à 14h30 avec Entrée dans l'Histoire, eh bien je vais vous raconter la vie de personnages historiques célèbres et vous allez être surpris car les personnages que j'ai choisis vont nous révéler bien des secrets. Alors aujourd'hui pour une première, C'est dans l'histoire de Gilles de Rais que nous allons entrer. Il était fascinant, Gilles de Rais, vous savez, celui que la légende a retenu comme étant le fameux barbe bleue, terrifiant. Ah là là, un destin hors norme. Alors c'est entrer dans l'histoire et c'est dans un instant sur RTL, Anaïs.
Gilles de Rais, Mazette. Ah oui, vous commencez savez. Très fort, Laurent. Allez, oui, à tout de suite.
Il y a du sang, il y a du sang.
Ouais. Mais c'était un copain de Jeanne d'Arc. Enfin bon. Merci beaucoup, Marianne Chazelle, d'avoir choisi le journal
Merci
inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL. Vous remontez sur scène dès le 17 septembre avec Régis Laspalès dans la pièce La famille et le potager, d'où les graines peut-être.
Oui, exactement. Au théâtre des variétés. Y a un petit rapport.
Ouais. On se quitte sur une de vos chansons préférées qui sent encore l'été. Excellent week-end à tous sur RTL.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli.
RTL, le journal RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.